J'aimerais parler ce matin sur l'épreuve de la foi. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ». Et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils !» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. L'épreuve de la foi. Nous passons tous par toutes sortes d'épreuves, de difficultés dans la vie, et je crois qu'on peut tous dire que ce sont des moments d'instabilité. On n'aime pas passer par l'épreuve, on est fragilisé, ce sont des temps de tension où notre cœur est bousculé. Mais j'ai remarqué que c'est souvent dans ces situations que le Seigneur peut travailler le mieux dans notre âme, travailler notre caractère, changer nos attitudes, notre mentalité, et en fait, après les épreuves, c'est souvent les plus belles expériences de foi que nous faisons à travers ces épreuves, lorsque nous sortons fortifiés, nous sortons renouvelés. Mais ce temps de l'épreuve est toujours un défi. Ici, nous retrouvons Abraham, qui a quitté son pays donc depuis plus de 25 ans maintenant, et on sait que Isaac est né quand il avait 100 ans, et maintenant les années ont encore passé puisque c'est un jeune garçon. Il avait eu cette promesse qu'il aurait un enfant, l'enfant est enfin arrivé, Isaac. Et on peut dire qu'Abraham avait la foi pour traverser les tempêtes. Abraham avait la foi pour croire même quand tous les obstacles étaient contre lui. Et il a traversé ces chemins difficiles jusqu'à ce moment où maintenant sa foi va être encore éprouvée. Et en fait, Dieu permet des épreuves pour purifier notre foi, pour nous permettre de vraiment croire uniquement en Dieu et s'attendre à Dieu. Alors un premier point, c'est au verset premier. C'est d'abord cette obscurité dans laquelle se trouve Abraham dans cette nuit de l'épreuve. Genèse 22, verset 1. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». C'est Dieu qui éprouve. Dieu nous éprouve quand il veut, comme il veut. Il le fait avec qui il veut et il n'a aucun compte à nous rendre. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors on peut être éprouvé ce matin, d'une manière ou d'une autre. Peut-être on est éprouvé physiquement parce qu'on a eu un rapport médical négatif, on a diagnostiqué une maladie, on a diagnostiqué quelque chose de mauvais dans notre corps, mais nous avons recours encore ce matin à Yahvé, Jiré, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui sauve. Ambroise Paré disait, « Je soigne », c'était un médecin, Mais il disait, mais c'est Dieu qui guérit. Alors nous disons la même chose. Merci Seigneur pour les médecins, que Dieu soit béni pour les progrès de la médecine. Mais nous croyons que c'est toujours Dieu qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance, et nous le bénissons pour son intervention. Donc on peut être éprouvé physiquement, on peut être éprouvé moralement, parce qu'on a été découragé par une situation. Et vous savez que nous passons par des épreuves, des incompréhensions. Il y a un proverbe qui dit dans la parole, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Et j'aimerais que nous prenions la bonne parole de Dieu, qui est une source de réjouissance. Peut-être on n'a pas tellement de bonnes paroles autour de nous, mais en tout cas dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a des paroles encourageantes, il y a des paroles fortifiantes qui vont nous relever. Mais on peut être éprouvé moralement, on peut être éprouvé financièrement, parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on n'arrive pas à payer les dettes. Eh bien là encore, on peut se tourner vers Dieu et dire « Oui, le Seigneur est fidèle, il pourvoira, je veux lui faire confiance, je donne ma part à Dieu, mais je sais que lui, il s'occupera de moi. » C'est un petit peu ce que Jésus dit quand on lui présente un denier et qu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous savons que Dieu aussi a sa part. Et je crois que quand on est éprouvé financièrement, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vécu avec Laurence, quand on a eu des situations de tension, nous avons toujours pris cette résolution de rendre à Dieu sa part en priorité et nous avons vu sa main agir à chaque fois. Que Dieu soit béni. La demande de Dieu est assez incompréhensible. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve pour lui demander son fils en sacrifice. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la compréhension humaine. Et on peut se poser la question, est-ce que cette parole peut venir de Dieu? Est-ce que Dieu peut demander le sacrifice d'un enfant? Et c'est certainement ce qui a bouillonné dans le cœur d'Abraham quand il entend Dieu lui dire, « Offre-moi ton fils, Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant qui avait eu tellement de difficultés à avoir, Sarah étant stérile, elle avait 90 ans, 800 ans, c'était déjà un miracle, et Dieu lui redemande l'enfant qu'il a donné. » Surtout que partout dans la parole, on voit que Dieu ne veut pas de sacrifice d'enfant ni d'humain, que Dieu aime les hommes, mais ici, il demande un sacrifice d'enfant. Et surtout que les faux dieux de l'époque demandaient ce genre de choses. Donc Abraham est perturbé. En même temps, il sait que c'est Dieu qui parle, et en même temps, Dieu demande quelque chose de contraire à sa parole. Et là, on peut comprendre le choc de l'incompréhension. Et frères et sœurs, nous ne comprendrons pas toujours la manière de Dieu de faire. Pourquoi parfois nous sommes déstabilisés? Pourquoi nous sommes dans l'incompréhension? Parce qu'une parole de Dieu nous a bousculés. Parce que nous ne comprenons pas parfaitement la manière de Dieu d'agir. Il nous échappe et finalement c'est une réalité. Nous ne sommes que poussière, nous sommes limités, nous sommes sur la terre et nous devons faire avec les moyens que nous avons, et c'est-à-dire faire confiance à Dieu malgré tout. C'est ce que va faire Abraham. Abraham est dans l'incompréhension, il peut se poser la question, est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Dieu ne demande jamais des choses pareilles. Et pourtant, il fait confiance, même s'il n'a pas tous les éléments. En fait, c'est un petit peu comme si on a une pièce du puzzle qu'on ne comprend pas. Mais Dieu, lui, il sait exactement l'ensemble du tableau, et cette pièce, elle va à un endroit précis. Sauf que nous avons juste un élément, c'est « va, prends ton fils, offre-le en sacrifice ». Et en fait, Dieu est en train d'éprouver la foi de cet homme. Deuxième point, c'est au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ici, c'est le point de l'obéissance. Et il y a tout un temps entre la foi, croire que Dieu nous a parlé, recevoir une parole de Dieu, et puis le temps où on va obéir à ce que Dieu a dit, ce sont deux choses différentes. Et j'aimerais dire qu'on peut avoir la foi, on peut croire ce que Dieu dit, mais si on n'obéit pas, eh bien la foi ne produira rien de spirituel. Elle restera comme morte. C'est au moment où Abraham obéit à ce que Dieu dit, même sans tout à fait avoir les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui va se passer exactement, il n'a juste que la parole « Prends ton fils, offre-le en sacrifice ». C'est à ce moment-là où il obéit que va s'enclencher en lui un processus où il va faire confiance à Dieu davantage que ce que sa raison lui dit, que ce que ses pensées lui disent, que ce que la logique peut lui dire, mais il dit, mais Dieu est au-dessus de tout. Alors s'il me demande ça, c'est qu'il va faire quelque chose. Alors on peut être dans cette situation et croire Dieu, on peut même croire que Dieu peut tout faire, on peut avoir la foi. Mais si on ne fait pas ce qu'il nous demande, c'est-à-dire si on n'obéit pas à ses commandements, eh bien cette foi restera vaine, elle restera morte. C'est beaucoup plus facile de croire pour les autres que de croire pour soi-même quand on est dans la situation. Un jour, il y a un homme qui a fait cette expérience, c'était en 1859, un funambule qui s'appelait Charles Bourdin. Il a eu l'idée de traverser les chutes du Niagara sur un câble qu'il a tendu, une corde. C'était un funambule, donc il avait déjà cette expérience. Mais il y avait 330 mètres à parcourir. Il l'a fait. Et malgré l'eau qui bouillonnait, malgré la hauteur, le vide, il a franchi l'obstacle en regardant droit devant et impeccable. Alors il a dit, puisque j'ai réussi à le faire comme cela, je vais tenter de le faire avec une brouette. Et il est reparti dans l'autre sens avec une brouette. Il dit, il n'y a aucun risque, je vais le faire. Et il l'a fait et il a réussi. Et puis il a proposé un défi. Et maintenant, vous voyez qu'il n'y a aucun risque, vous voyez que j'ai réussi. Qui veut venir avec moi pour franchir l'obstacle? Et là, il n'y avait aucun volontaire. On croyait tous qu'il allait le faire, mais personne n'osait croire que lui, il allait pouvoir le franchir avec Charles Bourdin. C'est facile de croire pour les autres, mais si nous, on est dans la situation, je pense que nous, on serait tous pareils. Il n'y en aurait aucun de nous qui serait volontaire. Eh bien, il a quand même trouvé quelqu'un. C'était son manager. Il l'a porté sur son dos et il a franchi l'obstacle. Alors, c'est vrai que si on est sur le dos d'un funambule qui traverse un câble de 330 mètres au-dessus des chutes du Niagara, il faut vraiment faire confiance dans la personne qui vous porte à ce moment-là. C'est une question de confiance. Et tout s'est bien passé, il a réussi à franchir l'obstacle. Mais en réalité, personne n'aimerait être à la place de celui qui est sur le dos, de celui qui a confiance. Lui, Charles Bourdin, il savait qu'il allait franchir l'obstacle, il avait la foi pour lui-même. Mais c'est difficile de croire quand c'est notre tour, et c'est difficile d'être dans les mêmes situations, dans les mêmes obstacles. Alors Dieu ne fera rien avec nous si nous avons la foi pour les autres, si nous avons la foi pour des grandes choses, mais si nous n'obéissons jamais, si au moment de franchir l'obstacle, nous sommes toujours absents, eh bien Dieu ne pourra rien faire avec nous. Et à ce moment-là, nous ne progresserons pas. Il va tout simplement attendre. Vous savez, on n'est pas les premiers. Je pense à Jonas, lorsque Dieu parle à Jonas et lui dit d'aller à Ninive pour porter la parole de Dieu, eh bien, il n'a pas voulu. Il avait bien reçu la parole, il avait bien entendu, mais il n'y avait pas l'obéissance et il a fui à l'opposé. Et Dieu ne pouvait rien faire avec cet homme-là tant qu'il était dans la désobéissance. Alors il a laissé suivre son chemin. Il a rencontré la tempête, il a été jeté par-dessus bord du bateau, il a été rattrapé par un poisson gigantesque qu'il a avalé. Et finalement, c'est dans le ventre du poisson qu'il s'est retourné vers Dieu. Et que là, il a commencé à dire, bon, je vais obéir à ce que tu me demandes. Et quand il a commencé à obéir, en fait, on voit que Dieu a pu commencer à l'utiliser. Et il y a eu des repentances dans cette ville de Ninive. Il y a eu des changements de vie. Mais sans l'obéissance, même un prophète, même quelqu'un qui est croyant, même quelqu'un qui sert Dieu, s'il n'y a pas l'obéissance, ben Dieu est obligé d'attendre. Dieu le fait passer par certaines épreuves pour le ramener dans la voie de l'obéissance. Il faut toujours obéir à Dieu parce que pour Dieu, l'obéissance même, dit Dieu, il le place au-dessus même des sacrifices. Vous voyez, ce matin, on a apporté à Dieu des sacrifices de louange. On sait que Dieu prend plaisir à la louange et que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple et c'est une bonne chose de le faire. Mais il y a quelque chose encore au-dessus que Dieu préfère, même au sacrifice des actions de grâce. À l'époque, c'était des sacrifices d'animaux, c'était quelque chose de très élevé d'offrir des sacrifices à Dieu. Il dit dans 1 Samuel 15, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Mieux vaut l'obéissance même que les sacrifices. Ça veut dire quoi ? Ben, qu'on peut louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin, on peut apporter nos sacrifices de louange, d'action de grâce, on peut croire en Dieu, mais si on n'a pas l'obéissance, eh bien, il manque un élément décisif, un élément capital pour Dieu qu'il va placer au-dessus même de nos temps de louange, d'adoration, il vaut mieux obéir à Dieu. C'est ça qui compte le plus. Alors pour Dieu, qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'obéissance. Pas simplement la foi, pas simplement la foi pour les autres, mais agir selon la parole de Dieu. Et ça, ça coûte toujours quelque chose. Parce que quand Dieu demande Isaac à Abraham, ça va lui coûter quelque chose. C'est son enfant, c'est quelque chose de terrible ce qu'il est en train de faire. Ça lui coûte quelque chose et il va obéir dans la foi. Troisième point, c'est au verset 5. Nous rencontrons Abraham qui traverse le chemin de l'épreuve dans la solitude. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la montagne que Dieu lui a indiquée, pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham est seul à connaître le terrible secret qu'il va offrir son fils en sacrifice. Il ne l'a pas partagé à son épouse, il ne l'a pas partagé à ses serviteurs ici, il ne l'a pas dit à Isaac, il lui a dit simplement qu'on va offrir un sacrifice à l'Éternel pour adorer Dieu, et c'est tout ce qu'il a dit. Il n'est pas rentré dans les détails, il ne peut pas le dire, parce que c'est trop puissant, c'est trop élevé, et certainement que s'il le disait à quiconque, on l'arrêterait, on l'empêcherait de faire une chose pareille. C'est obligé, parce que ça, c'est complètement déraisonnable. Donc il y a un combat intérieur, on peut imaginer Abraham qui souffre, il a une parole de Dieu qui est difficile, c'est une parole qui lui demande de sacrifier son fils, en même temps il ne peut pas la partager, en même temps il emmène son fils pour offrir un sacrifice, c'est ce qu'il dit autour de lui, il est obligé d'arranger un peu les choses. Donc on est parfois dans des chemins où notre entendement est bousculé, où nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, et parfois nous sommes seuls. Je pense à l'apôtre Paul qui écrit dans une de ses épîtres les tensions, les difficultés par lesquelles il est passé. C'est vrai, il a ouvert des églises, il a prêché la parole, il a vu des miracles, il a vu des conversions, il a vu des églises prospérer. Mais en même temps, il dit « Démas m'a abandonné », donc il s'est retrouvé seul en prison. Il dit que « Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal ». Il a souffert de certains croyants qui disait des mauvaises choses sur lui. Par exemple, les Corinthiens disaient « Oui, il est puissant quand il écrit ses lettres, mais quand il est présent au milieu de nous, il est faible. » Il se moquait de lui, il le dénigrait. Et puis, malgré tous les abandons, les souffrances, puisqu'il dit « Tous m'ont abandonné », il s'est retrouvé à un moment donné tout seul. En tout cas, il précise « Le Seigneur, lui, il ne m'a jamais abandonné, il m'a fortifié, il est venu à mon secours. » Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous appuyez sur les hommes, si vous vous appuyez sur les autres pour être fortifié, pour être renouvelé, pour être encouragé, vous serez tôt ou tard déçu dans la vie. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les hommes. Immanquablement, ils sont faillibles. C'est ce qui est arrivé même à des croyants qui entouraient l'apôtre Paul. Ils étaient faillibles. Et si Paul avait tout basé, si Paul avait tout misé sur Démas, il avait tout misé sur Alexandre le forgeron et tous ceux qui l'ont abandonné, ben il aurait pu dire, ben moi j'arrête de croire, je ne fais plus confiance à personne et je continue mon chemin sans Dieu. Non, il avait une autre attitude, c'est-à-dire qu'il plaçait le Seigneur Jésus au-dessus de toutes ces circonstances, de toutes ces situations, et il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, c'est le Seigneur qui m'a fortifié. C'est en lui que nous devons mettre notre espérance, notre confiance, parce qu'avec Dieu, nous ne serons jamais déçus, mais par les hommes, nous serons souvent déçus. À certains moments, il n'y aura plus que Dieu. Qui vous comprendra, qui vous consolera? Vous voyez, j'ai noté ce verset de Jérémie 17, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Se confier dans les hommes, miser tout sur les autres. Et le jour où les autres ne pensent pas comme vous, où les autres vous abandonnent, alors à ce moment-là, vous abandonnez aussi et vous êtes découragé. Mais nous devons miser sur Dieu, nous devons miser sur Jésus et faire confiance à Jésus en priorité. Si nous nous confions dans les hommes, nous serons déçus. J'entendais un reportage qui disait ceci, c'est que dans un couple, le conjoint peut apporter, dans le meilleur des cas, 80% des besoins à son conjoint. Dans le meilleur des cas, il y a toujours une partie que l'autre ne peut pas combler chez son conjoint. Il y a une partie, en fait, je pense que cette partie, il n'y a que Dieu qui peut combler pleinement. Et si nous attendons sur l'autre pour nous combler ou pour satisfaire nos besoins, au bout d'un moment, on sera déçu. Parce qu'il ne pourra jamais combler 100% des besoins. Il comblera une partie, mais il ne comblera pas 100%. Il y a une partie qui revient à Dieu. Et Dieu seul peut combler nos cœurs, en réalité. Dieu seul peut nous satisfaire pleinement. Alors si vous comptez tout sur les autres, eh bien attendez-vous à être déçu. Mais par contre, Dieu est capable de nous relever, de nous renouveler et de nous permettre d'être entièrement comblés. Où cherchons-nous des encouragements ? Quelquefois, on s'attend toujours à ce que les autres nous encouragent. Et c'est bien de s'encourager les uns les autres. Mais cela, notre avancement ne doit pas dépendre des encouragements. Parce que le jour où vous n'avez plus d'encouragement, alors vous arrêtez. Mais notre encouragement, notre avancement, il doit dépendre de Dieu. C'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre source d'encouragement. Merci Seigneur pour les encouragements qu'on peut recevoir. On a par exemple Barnabas qui avait le surnom de fils d'exhortation, fils d'encouragement, on traduit parfois. Il encourageait les autres. Mais le jour où il n'est plus là et le jour où on n'a plus d'encouragement, qu'est-ce qui se passe? Si on s'appuie uniquement là-dessus, alors on sera déçu et on dira, ben, je ne suis pas encouragé, personne ne remarque ce que je fais, alors finalement j'arrête. Mais non, la vraie source d'encouragement, elle n'est pas là. La vraie source d'encouragement, elle est en Dieu. Si nous mettons Dieu en priorité, alors nous serons fortifiés, nous serons encouragés. Les disciples, par exemple, ne voulaient pas abandonner le Seigneur. Vous savez, les disciples, ils aimaient Jésus, ils voulaient lui... Même ils ont dit, si Pierre a dit, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et tous les disciples ont dit de même, ils ont dit, nous ne t'abandonnerons pas, nous te servirons. Mais si Jésus s'était confié en eux, si Jésus s'était fié dans les disciples, il aurait eu de quoi être déçu. Mais en réalité, il savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Ses disciples l'ont abandonné. Ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils ont dit. On pourrait dire que c'était décevant. Mais Jésus ne s'est pas appuyé sur eux. Jésus savait qu'il y avait une autre réalité, c'est la réalité spirituelle, c'est Dieu. On peut dire des paroles, on peut dire « oui, je vous aiderai, je ferai ceci, je ferai cela », mais le jour où vous avez besoin, ils ne sont pas là. Alors, il faut vraiment compter sur la grâce de Dieu, et à ce moment-là, le Seigneur peut nous aider. Je remarque que, quatrième point, c'est que Abraham a des paroles de foi malgré la situation difficile. Abraham exprime déjà des paroles de foi quand il dit « restez ici, dans le verset que nous avons lu, restez ici, nous reviendrons, après avoir adoré, nous reviendrons vers vous. » Mais Abraham sait qu'il va offrir son fils en sacrifice, et en même temps il déclare, nous reviendrons. Voyez le paradoxe de la foi. En même temps il sait qu'il va faire quelque chose pour offrir son fils en sacrifice, et il affirme qu'il reviendra. Ça c'est la foi, extraordinaire, parole de foi, parole rassurante. Et je trouve la même chose au verset 8, lorsque Isaac dit à son père, « Mais je vois bien le feu, je vois bien le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Parce qu'Isaac aussi, il se rend compte qu'il y a un problème, il n'y a pas d'agneau pour l'Holocauste. Alors au verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Mais c'est une parole de foi qu'il donne ici, parce qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne savons pas comment Dieu va agir, mais nous pouvons croire que Dieu va faire quelque chose. Et c'est la position d'Abraham, une foi qui surpasse l'intelligence. Abraham ne sait pas l'avenir, il ne sait pas comment Dieu va agir, il ne sait pas ce que Dieu va faire, quand il va le faire, mais simplement, il est rempli de foi et il croit. La Bible dit même qu'il espérait contre toute espérance. Il avait une foi jusqu'au boutiste, et c'est la foi qui doit nous animer. Il va, pour lui, accomplir un acte d'adoration. J'ai noté aussi dans Hébreux 11, le parallèle à ce passage, qui dit que Abraham pensait que Dieu était assez puissant pour même ressusciter Isaac d'entre les morts. Il avait une foi dans le miracle de la résurrection, même s'il était sacrifié en holocauste. Vous voyez le type de foi, c'est assez impressionnant, et c'est ce que finalement qui anime Abraham et qui doit nous animer, une foi, une pleine confiance en Dieu. Alors si je regarde Abraham, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque nous avons la foi, notre vision va changer et nous allons faire confiance à Dieu. On voit la difficulté, mais on sait que derrière cela, il y aura la gloire de Dieu. Il voit les choses d'une manière spirituelle. Il dit « nous reviendrons ». Ce sont des paroles de foi. Quand on a la foi, on va avoir des paroles d'encouragement en disant oui, on va offrir un sacrifice, mais nous reviendrons. Il va se passer quelque chose. Il ne sait pas quoi, il ne sait pas comment. Un petit peu comme Paul. Un jour, Paul s'est retrouvé dans un bateau. Il était en partance pour Rome. Il avait prévenu le capitaine de ne pas partir pendant le trajet à cause de des intempéries qui allaient survenir. Mais selon la météo, le voyage devait se faire sans péril. Et pourtant, une tempête a surgi. Et effectivement, ils ont dû jeter la cargaison par-dessus bord. Ils craignaient de perdre la vie. Ça a duré 15 jours de tempête. Et à un moment donné, Paul dit, j'ai l'assurance que Dieu va nous conserver en vie. Il avait l'assurance de la part de Dieu qu'aucun de ceux qui sont dans le bateau ne serait perdu si nous faisons confiance à Dieu. Donc il a cette parole de foi. Il ne sait pas comment Dieu va agir. Il ne sait pas qu'ils vont échouer quelque temps après sur une île. Mais il fait confiance à Dieu dans l'obscurité. Et puis, ça génère une attitude de foi quand on a confiance en Dieu, puisqu'on peut agir maintenant avec assurance au lieu de la peur. La peur nous paralyse, mais la foi nous rend efficaces. Je pense à David qui, lorsqu'il va donner quelques victuailles à ses frères envoyés par son père, le peuple était dans la crainte et il n'osait combattre Goliath. Mais David était rempli de foi. Et immédiatement, il dit, j'irai me battre contre ce Philistin qui était un géant, qui était un homme de guerre. Ça lui donne de l'assurance, ça lui donne de l'audace, ça lui donne de la fougue. Et le roi essaie de le dissuader, de lui remettre son armure. Rien à faire, il va avec sa fronde, il a la foi. C'est quelque chose de plus que le roi n'a pas. Saül n'a pas cette foi. Il ne croit pas qu'on peut vaincre Goliath. Mais la foi fait la différence. Alors, croyons ce matin de tout notre cœur, par la foi nous ferons la différence dans une attitude de foi. Un jour, les disciples ont prié le Seigneur au sujet de la foi, en disant, mais Seigneur, ils ont vu le Seigneur prier, ils ont vu le Seigneur agir, ils ont vu faire des miracles, ils ont vu comment le Seigneur avait la foi. Et ils disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi, afin que nous aussi on puisse faire des grandes choses. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole que cette foi n'augmente pas dans le vide. Elle va augmenter au travers des épreuves, des difficultés que l'on rencontre, que l'on traverse. Et c'est comme ça que notre foi grandit. En fait, Abraham, sa foi va grandir au travers de cette épreuve du sacrifice d'Isaac. Pour David, sa foi va grandir quand il va confronter Goliath. Si nous n'obéissons pas à Dieu, en fait, notre foi n'augmentera pas, elle ne grandira pas. C'est dans l'épreuve, dans l'obéissance, que nous pouvons progresser. Un autre point, c'est la réponse de Dieu. Lorsqu'enfin Isaac est arrivé au lieu indiqué pour le sacrifice, donc Abraham va le placer sur l'autel, le lier avec des cordes pour l'offrir en sacrifice. À ce moment-là, c'est le dernier moment. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors Abraham lève son couteau pour égorger son fils et c'est à ce moment-là on pourrait dire, jusqu'où allons-nous aller? Il était prêt à baisser la main, mais Dieu l'arrête du ciel. Un ange vient et dit, arrête, arrête Abraham, Abraham. Dieu a vu ton cœur et il y a un bélier qui est préparé. Abraham a été éprouvé donc jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment du sacrifice, mais Dieu savait ce qu'il allait faire et comment il allait faire. En fait, la solution était déjà là quelque part. Elle était dans un buisson, c'était le bélier. Mais Abraham ne le savait pas encore. Et parfois, la solution à notre épreuve est là, quelque part même autour de nous. Nous ne la voyons pas encore, mais Dieu l'a déjà préparée pour qu'on puisse sortir de cette affaire. Abraham apprend à marcher par la foi, et à ce moment-là, il voit le bélier. Vous voyez, c'est un petit peu comme les femmes quand Jésus a été mis au tombeau, et le dimanche matin, elles vont pour verser des aromates sur le corps du Seigneur. Elles n'ont pas eu le temps de le faire à cause du sabbat, le jour de la mort du Seigneur. Le sabbat arrivait, il fallait vite mettre le corps dans le tombeau. Ils n'ont pas eu le temps de finir les préparatifs d'ensevelissement. Et elles reviennent le dimanche matin et tout le trajet se pose la question, mais on va au tombeau, mais qui va nous rouler la pierre? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir accéder au corps de Jésus? Elles ne savent pas encore, mais déjà Dieu a prévu la solution. La pierre est roulée, Jésus est ressuscité. Il n'y a plus besoin de ces choses-là. Les problèmes que nous nous posons, en fait, des fois, mais la solution existe déjà, nous ne la voyons pas encore, Elle est déjà prévue par Dieu, comme le bélier qui est prévu par Dieu. C'est la solution de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux. En attendant de voir la solution, il faut persévérer dans la foi et dire « Oui, le Seigneur va le faire ». Ce bélier est extraordinaire parce que c'est une image de Christ, en fait, dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'images de la croix, mais c'est dit que le bélier a été offert à la place d'Isaac, au verset 13. À la place d'Isaac, moi, ça me fait penser que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a été offert à la croix, à la place des pécheurs. À la place, c'est la même chose. Ce bélier est une image de Christ qui va prendre notre place à la croix pour effacer nos péchés. Et le sang de Christ qui a coulé est assez efficace pour effacer tous les péchés du monde. Que Dieu soit béni. Il y a Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu était en Christ parce que quand Jésus est mort, ce n'est pas un homme seulement qui est mort, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu fait homme. Il a réconcilié le monde avec lui-même parce que nous étions ennemis, nous étions en guerre contre Dieu et nous avons été réconciliés. C'est-à-dire que nos fautes ne sont plus sur notre compte puisque Jésus a pris notre place en fait devant Dieu. Il a effacé nos péchés. Donc Dieu ne fait pas retomber nos péchés sur nous, mais c'est Christ qui les a portés pour nous à la croix. Vous voyez que ce bélier nous parle vraiment de l'œuvre de Christ dans l'Ancien Testament. C'est une belle image, une préfiguration de l'œuvre de la croix. Comment peut-on être pardonné? Eh bien, on ne peut pas être pardonné par nous-mêmes. Il nous faut venir à Christ, reconnaître l'œuvre de la croix. Oui, il a pris ma place à la croix, demander pardon pour nos péchés à Dieu. Et la solution vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a pourvu au bélier, eh bien Dieu pourvoira à la solution du pardon. On va conclure par quelques pensées. Dieu nous éprouve, peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Et parfois, on est éprouvé, on est déstabilisé. C'est un moment où nous n'y pensons pas. Pour Abraham, il avait eu l'enfant. L'enfant avait bien grandi. Isaac, il pensait que maintenant, le plus dur était derrière lui, que maintenant, il allait marcher avec Dieu tranquillement. Mais à nouveau, une épreuve surgit sur son chemin. On ne peut pas présager quand va venir l'épreuve. Elle peut survenir du jour au lendemain. Alors même que tout va bien, une épreuve peut s'abattre sur notre vie. Alors, que va-t-on faire dans l'épreuve? Est-ce que Dieu change quand on est dans l'épreuve? Mais non, notre Dieu est toujours le même. Mais dans l'épreuve, nous allons développer la foi, nous allons développer l'obéissance, nous allons apprendre des choses sur Dieu, sur nous, sur les autres que nous ignorons. Et en fait, dans l'épreuve, il y a une certaine mort à soi-même. Vous voyez, je voulais terminer avec cette illustration de la chenille. La chenille qui passe son temps à ramper. À un moment donné, elle va devenir une chrysalide et elle va disparaître. Et quelques temps après, va ressurgir de cette chrysalide sous une autre forme, un papillon qui va pouvoir voler. Mais si elle ne meurt pas à ce moment-là, si elle ne disparaît pas dans la chrysalide, elle ne renaîtra pas sous une forme d'un papillon. Et à un moment donné, l'épreuve va être comme ce temps de mort à soi-même, ce temps de chrysalide. Il nous faut comprendre que Dieu agit dans le temps, que Dieu utilise le temps de l'épreuve pour nous transformer. En son temps, il va agir. En son temps, il va faire quelque chose pour ses enfants. Simplement, croyons-le, tenons bon et croyons que lui, il va agir.